Bonjour à tous, bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est ensemble jusqu'à midi. Au programme, le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca s'inspire de la correspondance du couple Schumann, Clara et Robert, pour proposer un double album, Love Letters, dans lequel quelques-uns des chefs-d'œuvre du couple fameux sont ancrés dans le contexte de pièces contemporaines. Une autre violoncelliste, Astrig Cyranossian, ressuscite, en compagnie du pianiste Nathanaël Gouin, un chef-d'œuvre oublié de Jean Krah, à la fois compositeur prolixe et marin exceptionnel, qui finira sa carrière comme amiral. Un troisième violoncelliste, le très jeune Paul-Marie Kouzma, avec la complicité de son camarade du CNSM de Paris, le pianiste Yona Majatski, publie un premier disque très prometteur avec les sonates de Poulenc et Rachmaninov. Beaucoup de violoncelle ce matin donc, mais d'abord du piano, avec notre invité Irakli Avaliani, qui donnera lundi 27 janvier un récital consacré aux trois dernières sonates de Beethoven, des monuments du piano, à la salle Cortot, à Paris, dans le 17e arrondissement. Bonjour Irakli Avaliani.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir pour la première fois en balade musicale dans le studio d'IDFM Radio.
Oui.
Vous êtes né à Tbilissi, en Géorgie, qui à l'époque faisait partie intégrante de l'URSS. Vous êtes issu d'une vieille famille géorgienne et avez commencé vos études à l'école supérieure de musique de Tbilissi. Et après avoir remporté brillamment les plus hautes récompenses au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, vous allez faire une rencontre décisive en retournant en Géorgie pour vous perfectionner auprès d'Eteri Djakeli, de l'immense pianiste et pédagogue Lazare Lévy et d'Eduardo Del Pueyo. Eteri Djakeli va vous initier à l'enseignement de Marie-Jaël, elle-même grande pianiste, compositrice, proche de Franz Liszt, qui va avoir une influence considérable sur votre jeu, puisque vous allez reconstruire votre technique pianistique. On va y revenir, bien sûr, au cours de cette émission. Et ensuite, en qualité de soliste de l'Agence nationale de concerts de Moscou, Philharmonia, vous sillonnez toutes les républiques de l'ex-URSS, de Riga à Vladivostok, du Caucase à l'Asie centrale, de Moscou à Saint-Pétersbourg. Chaque année, vous donnez plus de 200 récitals, concerts avec orchestre et de musique de chambre. En 1989, la Perestroïka va vous permettre de vous installer à Paris. Vous obtiendrez la nationalité française en 1992. Votre premier récital au Théâtre des Champs-Élysées en 1995 vous a valu des éloges unanimes. Votre répertoire très large vous permet d'aborder tous les styles pianistiques, de Scarlatti à Scriabine, du romantisme à la musique contemporaine. Votre discographie, soutenue par le mécénat Groupe Ballas, comporte des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert, Schumann, Tchaïkovski, très largement récompensées par la presse musicale. Irakli Avaliani, nous allons revenir à la première partie de votre parcours. Après la Géorgie, comment se déroulait votre vie d'étudiant à Moscou, au prestigieux conservatoire Tchaïkovski, avec la crème des meilleurs étudiants et des plus fameux enseignants?
Oui. au fait, vous savez, ça n'avait rien à voir avec la vie musicale à Tbilissi, qui était d'un niveau extraordinaire. Mais Tbilissi, c'est une ville, la Géorgie est un petit pays, tout le monde se connaît. Donc l'ambiance était plutôt familiale. Même dans le conservatoire, dans l'école, tout le monde se connaissait. Et à Moscou, c'était pas du tout pareil. Donc je débarque à Moscou. Et c'était, comment dire, dans le conservatoire, j'étais étonné par le niveau de pression. Comme les étudiants, le niveau d'enseignement était vraiment très, très élevé. Mais comment vous dire, c'était une sorte de... Maintenant, je peux le dire avec la distance, que c'était une sorte d'usine qui fabriquait les musiciens comme on fabriquait les sportifs. donc à la chaîne. Et les étudiants de ce conservatoire avaient un but très précis, gagner les concours internationaux. Et là, tout était mis en œuvre pour avoir tous les diplômes possibles et impossibles dans le monde entier pour prouver que l'enseignement soviétique est le meilleur. Voilà. Donc, je me suis retrouvé dans cette structure.
Et il y avait des examens qui étaient très sélectifs chaque année, je suppose.
Oui, oui. Déjà pour rentrer au conservatoire, vous savez, je ne sais pas combien il y avait une centaine de prétendants, juste deux musiciens, ils ont été choisis, et moi aussi. Il y avait plusieurs examens, hein. Donc c'était la culture musicale, la solfège, la polyphonie, enfin tous les examens tout à fait ordinaires, plus évidemment le piano. Donc j'ai passé l'examen, je me suis retrouvé à Moscou, au conservatoire. Pour comparer l'enseignement à l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, et je pense que maintenant c'est exactement pareil, est vraiment, vraiment différent de ce qu'on trouve en France et en Europe en général. Comme j'ai mis à le dire, l'objet était de former les musiciens, les meilleurs musiciens qui peuvent gagner au concours. Donc, tout est mis en œuvre. L'enseignement était gratuit. Tout était pris en charge par l'État. Donc moi, je payais rien au conservatoire. Nous avions le cours deux fois par semaine, même dans les petites écoles de musique, c'est deux fois par semaine, entre 45 minutes et une heure et demie, ça dépend du cycle, enfin, de l'ancienneté. Ensuite, les examens deux fois par an, en janvier et en juin, avec les programmes très, ça faisait un mini récital. Avec quatre groupes de morceaux différents. C'était la polyphonie obligatoire, ensuite la sonate classique, Mozart, Bach, Mozart, Haydn, Schubert ou Beethoven. Ensuite un morceau romantique, l'étude, en préférence de Chopin, Liszt, enfin, quelque chose pour montrer la technique. Et ensuite, un morceau contemporain. Donc, c'était un mini-récital deux fois par an. Et, à part ça, il y avait des prestations publiques obligatoires. Parce que toutes les semaines, il y avait des concerts. Au Conservatoire de Moscou, c'était dans une petite salle du Conservatoire de Moscou, salle absolument magnifique, avec l'acoustique extraordinaire. Et même à Tbilissi, j'étais obligé de me produire très souvent en concert public. Et le premier concert avec l'orchestre, j'ai donné à 9 ans. Ah, c'était l'orchestre de chambre. Voilà.
Alors, on va vous entendre dans le premier mouvement de la sonate opus 110 de Beethoven que vous aviez présenté pour obtenir votre diplôme de piano. Thank you. Ludwig van Beethoven, par notre invité en balade musicale, Irakli Avaliani. Et après votre service militaire, Irakli, vous avez décidé de retourner en Géorgie pour vous perfectionner auprès d'une pédagogue de nationalité française, mais d'origine géorgienne, Eteri Djakeli, qui était professeur au conservatoire de Tbilissi. Ça a été un personnage clé de votre parcours musical, Irakli.
En effet, vous savez, il y a des rencontres dans la vie qui vous changent complètement, vous changent la vie, carrément. Donc, c'était l'exemple d'Eteri. La rencontre avec Eteri, qui est arrivée en Géorgie en 1968, avec son mari qui était architecte, ils avaient l'idée, ils ne connaissaient pas le pays. Tous les deux, ils étaient nés, Eteri est né en France, à Paris, et son mari est né, c'était architecte, est né à Bruxelles. Et donc, ils sont arrivés pour aider le pays. En 68, c'était le encore Brejnev. Donc, c'était pas le goulag, mais c'était pas loin. Donc, Eteri, je savais, il pratiquait une méthode différente de notre méthode traditionnelle, l'école russe, soviétique, tout ce que vous voulez. Et ça m'intéressait beaucoup. Je suis allé le voir. Nous avons parlé, nous avons échangé autour du piano, et j'ai découvert un trésor. J'ai trouvé un trésor, et j'ai décidé de rester et travailler avec elle. Donc ça a duré 5 ans. Et ça m'a complètement changé. Ça a changé ma technique pianistique, ça a changé mon approche à la musique, ma vision, pas mal de choses. Voilà.
Et c'était une méthode particulière, donc était une méthode d'enseignement d'une pianiste française, Marie Jaël, qui était une grande amie de Franz Liszt, qui était une très grande pianiste et aussi une excellente compositrice.
Ah bah oui, en effet, c'est une méthode, c'est un enseignement français. On peut oublier, Marie Jaël, dans le 19e siècle, était rivale de Clara Schumann. C'était une star, une pianon. Si vous lisez les critiques, c'est une star, une vraie star, comme on connaît aujourd'hui. On connaissait très bien les œuvres, parce qu'elle composait, beaucoup, mais le côté pédagogique, tout ce qu'elle a écrit, le livre et tout ce qu'elle nous a laissé, c'est jamais moins connu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Or, c'était une grande pédagogue. Et à part ça, c'était vraiment une philosophe. Elle a écrit 12 de livres, extrêmement difficiles à lire.
Et vous en avez traduit, d'ailleurs, je crois.
Moi, j'ai traduit le premier livre, La musique et la physiologie, en russe et en géorgien, et aussi 3 volumes de toucher, parce que c'est une sorte de manuel. Voilà. Mais les autres, là, j'étais déjà en France.
Alors, avant d'aller plus loin dans votre parcours, Irakli, on va vous écouter dans l'une des 555 sonates de Scarlatti, la sonate en do majeur K420.
Thank you.
Scarlatti par notre invité en balade musicale, Irakli Avaliani. Revenons à votre vie, Irakli, dans l'ex-URSS. Vous avez été engagé comme soliste par l'Agence nationale des concerts de Moscou, Philharmonia, pour laquelle vous avez sillonné l'immense territoire de l'ex-URSS en donnant un nombre considérable de concerts. Ça devait être épuisant, cette vie, non ?
Bien sûr que c'est épuisant. Mais vous savez, la Philharmonia, c'était une agence qui appartenait à l'État. Il n'y avait pas d'agence privée. Ça ne pouvait pas exister en Union soviétique. Mais c'était une agence de NEC plus ultra. Donc quand j'étais accepté, c'était vraiment le bonheur. Parce que je ne pouvais pas souhaiter mieux. Sauf que je suis accepté, il y avait évidemment l'audition, où nous avons parlé de la musique, de ma culture. Ensuite, c'était une lecture à vue, où je me souviens très très bien, c'était une conductrice de Tannhäuser, de Wagner, que je devais jouer au piano, enfin l'ouverture. Ça, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Et ensuite, c'était la musique, j'étais... un petit programme, je jouais un soliste, je me souviens plus ce que c'était. Et ensuite, la musique des chambres que je jouais avec une violoniste incroyable, c'était Tatiana Grindenko, la première femme de Gidon Kremer.
Ah oui.
Nous avons joué, grande violoniste, adorable. Et nous avons joué une sonate de Ravel. C'était un très très bon souvenir. J'étais engagé. Et immédiatement, le lendemain, on me téléphone, on dit, vous allez, par exemple, à 2h dans l'après-midi, jouer un concert dans une salle de concert d'une école, je ne me souviens plus. C'était une sorte d'abonnement pour la jeunesse. Donc j'arrive, donc j'avais un morceau en soliste à jouer, accompagné d'une chanteuse. Bref, tout le concert. J'étais au piano. C'était le premier jour de mon travail. Et ça a continué. Ça a continué depuis... mon arrivée en France.
Comment étiez-vous rémunéré ? C'était correct ?
Écoutez, on était tous salariés. Il faut dire que la structure de Philharmonia, il y avait très peu de titulaires. Moi, j'étais titulaire. Mais surtout, c'était des intermittents comme nous on connaît ici en France, mais les intermittents de toutes les vedettes que vous connaissez, Richter, Hillels, je sais pas, tout le monde. Il y avait deux orchestres symphoniques, plusieurs orchestres de chambre, les ensembles de musique de chambre. Donc c'était une vraie usine. On était tous salariés, les titulaires. Et je devais jouer 16 concerts. C'était ma norme pour justifier mon salaire. Donc on n'était pas très très bien payé.
16 concerts par mois.
16 concerts par mois. Ouais, mais on faisait beaucoup plus. Tout confondu. Ça peut être un récital en solo, en soliste. Le concert avec l'orchestre, la musique de chambre, avec des chanteurs, enfin, tout qu'on peut dire. C'est-à-dire, il fallait porter la culture aux masses. C'était ça, l'idée.
Alors, le problème, vous aviez un passeport pour, j'allais dire, pour l'URSS, mais malheureusement, vous n'aviez pas un passeport pour jouer à l'Ouest.
Non, c'était pas possible. Pour les raisons qui m'échappent, par le biais de mon professeur, il y avait un groupe d'amis, surtout en France, qui ont commencé à me connaître, surtout mes enregistrements. Ils essayaient de m'inviter au festival, au petit festival d'abord, mais ça n'a jamais marché, j'étais jamais autorisé de partir. Et donc, à 89, encore une fois, c'était une invitation, et bizarrement, on me laissait partir, j'étais très étonné. Très étonné. Et je suis arrivé en France, c'était en 1989.
Perestroïka.
Pardon ?
La perestroïka.
Exactement. Donc la porte s'était ouverte. Et quand je suis arrivé en France, évidemment, Paris, c'était une sorte de rêve. J'aurais aimé vivre à Paris, mais je ne pensais pas rester. Donc je suis arrivé à Paris, j'ai dit, ah chouette, la porte est ouverte. Donc j'établis les contacts professionnels et je continue de voyager. Eh bien non, le destin a tout changé. Pendant mon séjour, c'est le maire de Berlin qui s'est écroulé.
Ah oui.
Et je me suis retrouvé dans le monde qui est changé immédiatement. Et j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je devais faire. Et juste, on m'a proposé un poste dans un conservatoire d'aller nous enseigner. Et j'ai accepté, sans même discuter. C'est un directeur qui était venu à mon concert à Paris, qui m'a écouté, donc il est venu me voir après le concert. Et je me suis retrouvé dans un conservatoire en Picardie, à Laon, un petit conservatoire que je commençais à enseigner. Et j'ai trouvé l'équipe absolument formidable. C'était des jeunes. Et je restais. Je suis resté 25 ans dans ce conservatoire parce que j'avais des liens d'amitié avec mes collègues, c'est un côté familial, avec les parents d'élèves. Donc, et puis, il faut dire que moi, la vraie France, je connais à Laon, parce que Paris, c'est une ville cosmopolite, comme toutes les grandes villes. Mais la vraie France, il faut sortir des grandes villes. Et là, j'ai commencé vraiment à apprécier tous mes amis. Et on garde le contact. Hein. On garde toujours. Il vient à Paris, à mes concerts. Donc, c'était vraiment une expérience absolument formidable.
Alors, les auditeurs pourront se procurer votre biographie qui est passionnante, qui révèle de tas d'aspects de la vie en l'ex-URSS. C'est une biographie écrite par Hervé Gicquiot sous le titre « Les tribulations d'un pianiste en URSS, Irakli Avaliani », un bouquin publié en 2018 par l'éditeur Affinité Piano. Irakli Avaliani, on va vous écouter dans l'un de vos compositeurs favoris, Johannes Brahms, la rhapsodie numéro 1 en si mineur, opus 79, où se déploie votre jeu lumineux, puissant et aussi d'une profonde intériorité.
Thank you.
Après Brahms par Irakli Avaliani, revenons à Beethoven avec les trois dernières sonates de cet Himalaya du piano que constituent les 32 sonates du maître de Bonn que vous allez interpréter lundi 27 janvier à 20h à la salle Cortot à Paris. Elles appartiennent à la dernière période créative de Beethoven, n'est-ce pas Irakli ?
Oui. En fait, c'est pas la dernière œuvre pour le piano qu'il a composée. Les dernières œuvres, c'était les Bagatelles opus 126, et bizarrement, toutes dernières, c'était un rondo en sol majeur. Vous savez, pour un sou perdu, un petit rondo en sol majeur. Mm-hmm. Opus 129. Voilà. J'ai marqué ici. Je ne sais pas si on peut considérer opus 111 comme un testament pianistique. Déjà, c'est pas le dernier œuvre. Le testament, plutôt, peut-être, c'est des Bagatelles qu'il a composées après la 9e symphonie, opus 126. Mais il faut dire que la sonate, elle est tellement immense que c'est difficile d'en parler et analyser. Je ne sais pas ce que vous disiez très, très justement, que c'est Thomas Mann qui a fait une analyse très précise par le biais de son personnage dans le Dr. Faustus, qui était mon livre de cheveux à l'époque, qui fait l'analyse de cette sonate très romantique. C'est une œuvre incroyable.
Thomas Mann a parlé de l'adieu à la sonate de Beethoven.
Oui, peut-être, parce que c'est la dernière sonate. Mais je pense qu'il aurait pu composer encore des sonates, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu.
Et pourtant, c'est une œuvre qui a mis longtemps à trouver sa place au concert et à s'imposer au répertoire, puisque on jouait plutôt les sonates pathétiques, appassionata, oui, clair de lune.
Exactement. Exactement. Oui, à l'apparition de cette sonate, il y avait des critiques assassinantes, hein, qui disaient que le roman, c'est mauvais, c'est impossible de comprendre. Mais il faut dire que dans cette sonate, je pense que le Beethoven, il est atteint d'un degré de liberté incroyable, tout en gardant de la maîtrise absolue de la forme, du rythme, enfin, tous ces moyens de compositeur. Mais en même temps, regardez l'Arietta, c'est incroyable. C'est une œuvre qui dure, c'est un mouvement qui dure une vingtaine de minutes sur un seul souffle. Il n'y a pas une seule note en trop.
Oui, c'est incroyable. Vraiment un mouvement exceptionnel. Eh bien, justement, Irakli Avaliani, nous allons vous écouter, non pas dans l'Arietta, parce que ce serait vraiment un péché de le couper, si je peux dire, mais dans le premier mouvement, Maestoso, Allegro con brio, ed appassionato. Thank you. Notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, Irakli Avaliani, interprétait le premier mouvement de la 32e sonate opus 111 de Beethoven. Une sonate que vous jouerez sur la scène de la mythique salle Cortot à Paris 17e, à l'acoustique exceptionnelle, lundi prochain, 27 janvier à 20h. Nos auditeurs peuvent réserver leur place sur le site de la salle Cortot ou bien se procurer leur billet directement sur place en arrivant au moins une demi-heure avant le début du concert. Merci beaucoup, Irakli Avaliani.
Merci à vous.
Bonne journée et très bon concert.
Merci, merci Christophe.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Comme une confession intime, Love Letters, imaginé par le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca, trouve son inspiration dans la correspondance du célèbre couple Robert et Clara Schumann. Le double album Love Letters, sorti sous le label Naïve, aspire à traduire la passion qui animait leurs échanges épistolaires, figurant parmi les plus belles lettres d'amour jamais écrites dans l'histoire de la musique. Les compositions de Clara et Robert, imprégnées d'une tendresse infinie, résonnent comme des dialogues musicaux entre âmes sœurs. Le concerto pour violoncelle opus 129 de Robert Schumann est un chef-d'œuvre du répertoire romantique. Christian-Pierre Lamarca et l'orchestre Philharmonia, sous la baguette de Raphaël Merlin, nous offrent une interprétation passionnée du final.
Thank you.
après le concerto pour violoncelle de Robert Schumann, dont nous avons écouté le final, Christian-Pierre Lamarca a gravé dans son double album Love Letters quelques pièces de musique de chambre de Clara et de Robert Schumann, comme les Fantasiestücke opus 73, en compagnie du pianiste et compositeur Jean-Frédéric Neuburger. Robert Schumann sur IDFM Radio. Le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger jouaient l'une des Fantasiestücke, opus 73, extrait d'un magnifique double album, Love Letters, paru chez Naïve. La sortie de ce double album coïncide avec le lancement de la première saison musicale, Vibration, à Lyon, sous la direction artistique de Christian-Pierre Lamarca. Ce projet va se dérouler, pour la première saison, sur 3 soirées exceptionnelles en 2025, mettant en lumière des artistes de renommée internationale tels que les chanteurs Patricia Petitbon, Cyril Dubois et Stéphane Degout, les pianistes Jean-Frédéric Neuburger et Suzanne Manoff, les récitants Olivier Py et Claire Chazal, le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca et le quatuor Harold. Le premier concert aura lieu le vendredi 31 janvier à 20h30 à la prestigieuse salle Molière de Lyon avec pour thème l'amour, la mort et la mer. Avec Patricia Petitbon soprano, Christian-Pierre Lamarca violoncelle et Suzanne Manoff piano dans un programme de composition classique française, espagnole et même bretonne. De Fauré à Rodrigo, en passant par Yann Tiersen. Les deux autres concerts auront lieu les 28 mars et 27 mai, toujours à la salle Molière de Lyon.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
La violoncelliste Astrid Cyranocian et le pianiste Nathanaël Gouin viennent de s'emparer de 3 œuvres que le temps ou la versatilité des goûts ont rendues provisoirement invisibles. Et Invisible, c'est justement le titre de leur album, sorti chez Alpha Classics, qui ressuscite les sonates pour violoncelle et piano de Pierre-Octave Ferrou, un élève de Florent Schmitt et une figure marquante de la vie musicale française entre les deux guerres, mais disparu beaucoup trop tôt. De Madeleine Soulage, une élève de Nadia Boulanger, et également productrice d'émissions radiophoniques, et enfin du breton Jean Cras, au parcours très original. Né à Brest, Jean Crat a mené de front une carrière exceptionnelle dans la marine qu'il acheva au grade de contre-amiral, tout en étant l'auteur d'un catalogue d'œuvres très variées, allant du symphonique à l'opéra, en passant par des pièces religieuses, des mélodies et de la musique de chambre, dont cette sonate pour violoncelle et piano, composée en 1901 à 22 ans. Astrid Cyranocian et Nathanaël Gouin en interprètent le premier mouvement. Astrid Cyranocian et Nathanaël Gouin interprétaient le premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Jean Crat, une très belle découverte dans un disque paru chez Alpha Classics.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
À l'occasion de la sortie de leur premier album Hermitage pour le label Scala Music, le violoncelliste Pierre-Marie Kuzma et le pianiste Yona Majatski brossent un subtil portrait de la sonate pour violoncelle et piano au XXe siècle. Rachmaninov cultive un élan romantique tardif, l'Ukrainien Roslavets, proscrit par le régime soviétique, se frotte aux audaces de la modernité, et Poulenc cherche un espace d'expression en pleine Seconde Guerre mondiale. Le final, quatrième mouvement de la sonate de Poulenc est une sorte de tarentelle endiablée.
Thank you.
le final de la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc vient de refermer notre balade musicale. Une interprétation pleine de fougue de Paul-Marie Kuzna et Yona Majatski, un duo de jeunes musiciens formés au CNSM de Paris, qui a remporté un prix décerné par l'Académie musicale de Villecroze au concours international de musique de chambre de Lyon en 2022. Paul-Marie Kuzma et Yona Majatski donneront un concert pour la sortie de leur disque le lundi 27 janvier à 19h30 à la Scala Paris. C'est une très belle salle située dans le centre de Paris, 11 boulevard de Strasbourg, métro Strasbourg-Saint-Denis. Vous pouvez réserver vos billets sur le site de la Scala Paris ou vous en procurer sur place une demi-heure avant le concert. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain dimanche à 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky et à la technique et restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.